Logos, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cette hors-série politique. Pour cet épisode, nous allons discuter du Parti communiste français et plus précisément du programme porté par Fabien Roussel. Avant de poser les premières questions, est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Eh bien, bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Du coup, moi, je m'appelle Léon Desfontaines, je suis secrétaire général du mouvement Jeunes communistes de France et également porte-parole de Fabien Roussel pour l'élection présidentielle de 2022. Et j'ai 25 ans, je suis originaire d'Amiens et je suis actuellement en reprise d'études en master en sciences de l'éducation.
Une question un petit peu ouverte. Quel bilan vous tirez, vous, en tant que représentant du Parti communiste, du bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron avant ces élections ?
C'est un bilan catastrophique, même si ça a été entaché par deux ans de pandémie, bien évidemment, qui ont été des années un peu particulières où il n'a pas pu réellement mettre en place les politiques qu'il avait engagées, en tout cas avant l'arrivée de la pandémie. Après, voilà, il s'inscrit dans la droite ligne des gouvernements précédents. Il a enchaîné les politiques libérales austéritaires dans les services publics d'une part et d'une autre de casse du code du travail. Voilà, c'était une de ses premières mesures, ça a été la réforme du code du travail, le travail XXL qui a allégé le code du travail et surtout les droits sociaux pour les travailleurs. C'est l'inaction politique à destination notamment des étudiants, des jeunes en général. Hein. Voilà, c'est un sujet qui me touche à cœur en tant que secrétaire général des jeunes communistes. Mais le vrai bilan du quinquennat, c'est quand on me demande le bilan du quinquennat, le vrai bilan du quinquennat, c'est la situation déplorable dans laquelle se trouve la jeunesse aujourd'hui. On a 1,5 million de jeunes qui se retrouvent sans emploi ni formation. Ce nombre continue d'ailleurs d'augmenter sur les derniers chiffres de l'INSEE. C'est la mise en place de la sélection à l'entrée de l'université avec Parcoursup, qui est, je pense, la réforme à l'image de ce quinquennat pour la jeunesse, qui laisse tous les ans des dizaines de milliers de lycéens bacheliers sur le carreau et qui oblige d'autres à être acceptés, en tout cas à poursuivre des études dans une filière par défaut, et qui vient briser les rêves, les aspirations, les envies de centaines de milliers de jeunes. Et nous, on les voit, ces jeunes, au quotidien. Il n'y a pas un jeune, moi je n'ai pas croisé un seul jeune qui était satisfait par la plateforme Parcoursup. C'est aussi la baisse des APL comme première mesure. Là, c'est les situations, c'est le constat sur la jeunesse, mais je trouve qu'il est représentatif derrière, en réalité, d'un manque d'action. Déjà, il y a un réel manque d'ambition politique pour la jeunesse, parce que du coup, la jeunesse est laissée dans une situation de précarité, et en fait, le gouvernement la laisse dans cette situation-là, donne quelques aides sporadiques par-ci et là, hein. Il faut le dire quand même, pendant la pandémie, il y a eu quelques aides là-dessus, mais il n'y a pas de véritable projet politique sur la jeunesse. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse ? Qu'est-ce qu'on fait de la jeunesse ? Quelle vision on a de la jeunesse ? Et force est de constater que Emmanuel Macron n'en a pas et qu'il a laissé, il laisse la jeunesse livrée à elle-même. Et du coup, derrière, ça gonfle les chiffres du chômage, les chiffres de la précarité et les nombres de jeunes sans emploi ni formation. Je pense que nous avons un réel souci là-dessus. Il y a également un problème, je pense, de conception de la démocratie avec un Parlement c'est pas nouveau, hein, sous la Ve République, et notamment le passage au quinquennat, qui n'est plus qu'une caisse d'enregistrement, mais qui a été amplifié là par la vague de députés marcheurs qui votent en bloc les propositions du gouvernement, qui refusent en bloc toute proposition faite par l'opposition. Je prends un exemple, c'est par exemple la revalorisation des pensions de retraite pour les agriculteurs qui avait été portée par le député André Chassaigne, membre du groupe communiste à l'Assemblée nationale, qui avait été déposée il y a quelques mois. L'Assemblée nationale, les députés marcheurs avaient d'abord voté contre, puis finalement se sont ravisés après que le gouvernement a dit non, il faut voter pour. On avait quand même aussi un problème de conception de ce à quoi sert le Parlement, de ce à quoi sert le pouvoir législatif. Et je pense que le quinquennat d'Emmanuel Macron a été également un quinquennat qui a fait du mal à nos institutions, qui a fait du mal à la démocratie. Je l'ai dit sur l'affaiblissement du rôle législatif, mais aussi sur la répression des mouvements sociaux. On a tous en tête, bien évidemment, le mouvement des Gilets jaunes, mais moi j'en ai un qui m'a profondément marqué, c'est celui de la répression contre les lycéens qui s'étaient mobilisés contre Parcoursup en 2018, dans lequel nous avons nombreux jeunes communistes qui sont fait arrêter, qui ont pris des flashballs, etc. Une répression inouïe, on avait des jeunes de 16, 17 ans qui se mobilisaient pour leur avenir, contre des injustices qu'ils subissaient au quotidien, qui étaient en train de se politiser, et qui ont eu pour seule réponse des gaz lacrymaux, des matraques, et on a bien évidemment tous en tête les images des 150 lycéens à Mantes-la-Jolie, à genoux, les mains derrière la tête. Et donc je pense que oui, le quinquennat Macron, non seulement il a continué les politiques libérales, mais en plus d'une manière autoritaire, qui ont affaibli derrière la démocratie.
J'aimerais vous poser une question sur comment vous pourriez résumer le programme du Parti communiste en trois grands projets, trois grands objectifs. Et après avoir écouté la réponse à la première question, trois thématiques en fait se sortent. D'abord, un sujet sur l'emploi, un sujet sur le programme pour la jeunesse, et vous avez abordé l'angle de la Ve République et l'aspect sur les questions parlementaires et représentatives. Est-ce que c'est ce qui représente assez bien le projet, le programme du Parti communiste porté par Fabien Roussel, ou alors il y a même d'autres thématiques?
Il y a toujours beaucoup de thématiques, c'est vrai que trois thématiques, c'est limité. Fabien Roussel, quand il est rentré dans la campagne avec le défi des jours heureux, le programme des jours heureux, aujourd'hui qui s'appelle, il a fixé deux priorités. L'emploi, d'un côté, et la jeunesse de l'autre. Parce que pour nous, ce sont les deux leviers essentiels pour révolutionner la société française. C'est les deux leviers, c'est avoir un emploi qui nous permette de gagner, de vivre dignement, notamment avec un salaire qui soit revalorisé, mais un emploi qui ait aussi un sens, qui soit utile pour la société. Voilà, donc priorité emploi, et donc c'est créer des emplois, lutter, éradiquer le chômage et avoir un travail qui paye, qui nous permet de vivre dignement et qui nous permette d'augmenter le pouvoir d'achat. Et donc derrière, il y a tout un tas de mesures. Hein. Il y a l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a la construction d'emplois par la réindustrialisation, par la création d'emplois dans le service public, etc. De l'autre, la jeunesse. Et la jeunesse, nous, on ne voit pas, et on est la seule force politique qui, je pense, ne voit pas en la jeunesse un problème, mais bien une solution pour relever les défis sociaux, environnementaux, économiques, sanitaires que nous avons aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui et demain. Et c'est pour ça que nous, on se dit que non seulement il faut avoir la jeunesse la mieux formée, mais il faut également une jeunesse qui ne soit pas au chômage et qui puisse justement être au contraire le fer de lance de la révolution de l'emploi en France, et donc qui puisse justement être formée pour remplir nos services publics hospitaliers, éducatifs, même la police, etc. Et également pour réindustrialiser le pays, parce qu'on dit qu'on va en avoir besoin, notamment des ingénieurs pour réindustrialiser le pays. Donc, on va avoir besoin d'une jeunesse formée. Et donc, c'est les deux priorités que s'est fixé Fabien Roussel, c'est l'emploi d'un côté et la jeunesse. Et moi, je rajoute en effet la question démocratique, qui est sur moi une question qui n'est pas secondaire, c'est la question des institutions et de la démocratisation de notre société. Bien évidemment, les institutions de notre République, qui doivent être repensées pour donner plus de pouvoir, notamment au Parlement, etc. Mais aussi au sein de la société, ça nous démarque aussi, c'est que nous, on est favorable à ce qu'il y ait des moyens d'intervention qui soient plus forts, notamment de la part des citoyens, pas uniquement sur des référendums, etc., mais aussi dans la manière dont, notamment, par exemple, l'argent est distribué aujourd'hui. Et nous, on est notamment favorable à la nationalisation de certaines banques, notamment pour que des principales banques en France, notamment pour que l'octroi des prêts à destination des entreprises soit contrôlé démocratiquement, notamment avec des enjeux sociaux et environnementaux qui soient fixés à l'octroi des prêts. Voilà. Donc, si je devais dire, pour être honnête par rapport à Fabien Roussel, c'est deux, c'est l'emploi et la jeunesse. Mais derrière, on a aussi des revendications sur l'écologie, sur l'international, sur la démocratie, bien évidemment. Mais vu que je m'appuie au jeu, je vais en dire que deux, emploi et jeunesse.
Faisons un peu de politique politicienne, si vous voulez. En 2012 et 2017, le Parti communiste français avait fait alliance avec Jean-Luc Mélenchon. La question est très simple, et je l'ai justifiée. C'est pourquoi aujourd'hui, pourquoi pour cette élection, vous n'avez pas reconduit cette entente politique? Porter et défendre ses idées, c'est évidemment toujours un combat noble. Seulement en politique, et surtout compte tenu de notre système électoral, il faut du pragmatisme. Et vous savez factuellement, je ne vous apprends rien, que le Parti communiste ne sera pas vainqueur à cette élection. Par exemple, Anne Hidalgo le sait également qu'elle est du Parti socialiste. Chez Lutte ouvrière, côté Lutte ouvrière, ils savent également qu'ils ne seront pas élus. Et en fait, la multiplication de ces divisions à gauche, elle s'est répétée depuis des décennies. Et d'autant plus qu'il y a une division au sein de la gauche. Et en plus, je pense même que réunie, la gauche n'est pas forcément majoritaire.
Donc, non, elle ne l'est pas. Elle l'est pas aujourd'hui. L'est
pas. Donc pourquoi ?
Elle est tout mouillée, elle est à 25%, tout mouillée, même un peu moins. Elle est faible.
Alors pourquoi ne pas essayer, pour être au moins au second tour, pourquoi ne pas essayer de se rassembler dans une approche pragmatique, à se dire, il peut y avoir des désaccords avec la France insoumise, il peut y avoir des désaccords avec Lutte ouvrière, mais ces désaccords sont sensibles, minimes, surtout quand on fait en comparaison, quand
la droite, on pose
relativement voilà, à ceux qui nous gouvernent depuis des décennies.
Bien sûr. Je vais bien évidemment y répondre, mais vous avez dit il faut faire preuve de pragmatisme, aujourd'hui, notamment dans les institutions de la Ve République. Moi, je pense que notre démocratie est malade de ce pragmatisme, justement. Et notamment, vous l'avez dit, aujourd'hui, la gauche... moi, mon objectif, c'est pas que la gauche elle soit au second tour. Mon objectif, c'est que la gauche, elle gagne l'élection présidentielle. Et si c'est pas celle-ci, qu'elle gagne la suivante. Mais pour ça, il faut être capable de respecter toute la diversité qu'il y a à gauche, d'une part, et notamment être capable d'aller chercher... Aujourd'hui, ceux qui n'y croient plus, ceux qui n'ont plus confiance en la politique, ceux qui votaient à gauche, qui étaient le cœur de notre électorat, mais qui aujourd'hui ne se mobilisent plus. Et nous, c'est ça notre principal combat, c'est de relever la tête à gauche, de redonner un espoir à gauche, notamment en recréant le lien entre la gauche et les classes populaires. Et je pense que force est de constater que depuis maintenant trop d'élections, et particulièrement depuis cette élection, la gauche ne s'adressait plus aux classes populaires. Eh bien, moi, je suis très heureux de faire la campagne de Fabien Roussel parce que c'est une campagne qui, justement, permet d'aller rediscuter avec les classes populaires, notamment de certains sujets dont la gauche avait complètement arrêté d'en parler. Je parle, par exemple, de la question de la sécurité sur laquelle Fabien est revenu, qui est une question essentielle. Nous, on a de nombreuses villes dans des banlieues populaires, notamment en région parisienne. C'est un des premiers sujets dont les habitants viennent nous parler, la question de la sécurité. Et moi, j'en ai marre que les gens à gauche nous disent « mais c'est un faux sujet ». Non, c'est un vrai sujet, c'est un sujet sur lequel il faut se préoccuper. Et c'est encore plus scandaleux aujourd'hui de dire que c'est un thème de droite. Parce que du coup, on laisse la droite mener sa politique ultra-répressive, etc. Nous, on propose justement une autre chose, une politique de gauche sur la question de sécurité, notamment en recréant une police de proximité. Mais ça a été pareil sur la gastronomie. Quand Fabien s'est fait tomber dessus pour avoir dit que le meilleur moyen de défendre la gastronomie, c'était de la rendre accessible, c'était une question de pouvoir d'achat, eh ben, il y a eu un vrai décalage aujourd'hui de certains candidats qui lui ont roulé dessus en disant « mais vous vous rendez compte, aujourd'hui, il défend la malbouffe, il défend la malbouffe ou la viande, il n'est pas écolo, etc. » Mais enfin, c'est de ça que la gauche est malade. C'est de ça que la gauche est malade. Et bien du coup, il faut respecter sa diversité, la diversité à gauche. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on le voit dans les sondages, Fabien Roussel est en train de monter dans les sondages. Alors, je suis d'accord, hein, il n'est pas encore au niveau, il n'est pas encore qualifié au premier tour pour l'instant, en tout cas. Maintenant, on a encore du travail devant nous. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'il ne vient pas piquer des voix, notamment à Jean-Luc Mélenchon. Parce que un des reproches qu'on nous a fait, c'est mais vous venez à baisser le score de Jean-Luc Mélenchon. La réalité, c'est que Mélenchon était à 11% il y a quelques mois, il est encore aux alentours de 11% les sondages, et que nous on est passé de 2 à 5%. Alors je suis d'accord, c'est encore des petits chiffres, hein, on est encore dans les marges d'erreur, etc. Mais on n'a jamais dit que Rome ne s'est pas construite en un jour, et on n'a jamais dit qu'on allait en une semaine permettre à la gauche de faire plus de 50%. 50% plus une voix, parce que c'est ça l'objectif à terme. C'est pas d'arriver à gauche tous unis, de potentiellement, parce que c'est même pas sûr, se qualifier au premier tour et derrière se prendre une claque monumentale. Non, l'objectif, c'est bien d'imposer notre projet de société. Mais je suis d'accord, par contre, qu'à gauche, nous n'avons pas d'adversaires, ce ne sont pas des adversaires politiques. Jean-Luc Mélenchon, même Yannick Jadot, ce n'est pas un adversaire politique pour nous. Ce sont des partenaires qui ont des idées différentes, qui, selon nous, on a beaucoup de divergences, et c'est important de respecter justement ces divergences, ces différences, parce qu'on n'a pas la même manière, visiblement, de parler aux Françaises et aux Français. Et moi, ce que je vois, notamment sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, y a pas mal de gens qui ne votaient plus. Certains même qui votaient Marine Le Pen, qui nous ont dit qu'aujourd'hui, ils allaient voter Fabien Roussel. voilà, aussi faible qu'aujourd'hui on est, on a déjà réussi à faire fléchir là-dessus en notre faveur. Et je suis persuadé, il nous reste quelques temps avant le premier tour, je suis persuadé que nous arriverons encore à aller remobiliser celles et ceux qui ne croient plus en la gauche à cause de fausses promesses, notamment du quinquennat de François Hollande, et de ceux qui n'y croient plus parce qu'on ne leur parlait plus d'eux, on ne parlait plus de leur quotidien et des manières de le changer. Et je pense que c'est ça le sens de la candidature de Fabien Roussel, du projet de la République sociale que nous portons, que nous défendons. Je pense que c'est ça, bien évidemment, le sens de cette candidature. C'est que Fabien Roussel, aujourd'hui, a encore un déficit de notoriété. Il était encore inconnu il y a quelques semaines. Maintenant, il est un peu plus connu. On voit que d'ailleurs, ça monte dans les sondages. Mais il y a encore un très gros déficit de notoriété. Et nous, notre enjeu, c'est de le faire connaître. Parce que je suis persuadé que le connaître, c'est voter pour lui. Et je suis persuadé, notamment, que... Plus il gagne à être connu, et plus il sera connu, plus il y a un électorat qui se remobilisera justement pour voter pour un candidat de gauche, et en l'occurrence pour Fabien Roussel.
Je pense qu'on peut effectivement faire le distinguo entre deux gauches, on va dire. Une gauche, on va dire, social-libérale, les sociodémocrates, comme on aimait à les appeler à une certaine époque. Donc j'entends par là Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, et une gauche, on va dire, un petit peu plus radicale, ou en tout cas anticapitaliste. On peut citer Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, voire même Nathalie Arthaud et Philippe Poutou. Vous avez dit avoir donc cette divergence entre vos formations politiques. Tout ce que vous avez mis en avant sur les thèmes oubliés de la gauche, sur les déçus de la gauche, entre guillemets, et de ses propositions et de ses actions. Vous pensez qu'elles ont été adressées à l'encontre de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon? Alors, je pense à la dernière élection, mais également aux 5 dernières années qui viennent de s'écouler. Est-ce que vous pensez que c'est des reproches qui vont être adressés de la part de potentiels abstentionnistes?
Moi, j'en suis persuadé. Enfin, si j'ai bien compris, moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a des Français qui reprochent à la gauche d'avoir abandonné certaines thématiques. C'est ça la question.
Oui, y compris aux électeurs de la France insoumise qui
ouais, s'étaient mobilisés pour des thématiques sociales importantes. Ouais, moi, j'en ai rencontré, hein, des gens qui m'ont dit « J'ai voté Mélenchon en 2012, j'ai voté Mélenchon en 2017. » Et heureusement qu'il y a Fabien Roussel, parce que là, je ne voulais plus voter pour lui. Parce que le Mélenchon, il faut le dire aussi, hein, le Mélenchon de 2012 et 2017, ce n'est pas le Mélenchon d'aujourd'hui. Alors, c'est tout à son honneur. Enfin, je veux dire, moi, j'ai aucun problème là-dessus. De toute façon, c'est pas mon candidat, il fait bien ce qu'il veut. Mais c'est sûr que sur certaines questions, il a changé. Notamment sur la question, je pense, de la République sociale, sur la façon d'être aussi, parce que je trouve, et il y en a beaucoup qui reprochent la posture, il y a eu le débat sur le syndicaliste de la CGT, mais moi, c'est un vrai sujet. Moi, il y en a beaucoup qui me disent, c'est bon, il y a un ras-le-bol de Mélenchon, il est là juste pour gueuler dans la contestation, il est où son projet politique ? Il donne moins de corps, moins d'ambition politique qu'il n'avait pu en donner en 2012 et en 2017. Voilà. Bon, après, c'est ses stratégies, etc. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a aujourd'hui des gens qui ne se retrouvaient plus dans le projet Mélenchon. Et y compris en 2017. Hein, moi, j'en connais beaucoup qui ont aussi voté par défaut pour Mélenchon et d'autres qui n'ont pas voté du tout parce qu'ils se sentaient plus représentés. Et donc, c'est encore plus important, selon moi, qu'on ait un candidat déjà qui... qui parle de jours heureux, qui parle de droit au bonheur, qui soit aussi sympathique dans sa façon d'être, qui aime profondément les gens. Moi, je pense que c'est aussi une différence qu'on a à gauche, c'est que Fabien Roussel est très accessible. Il connaît les gens parce qu'en fait, il fait partie du peuple. C'est un des seuls, d'ailleurs, candidats qui... Alors, j'ai rien à dire contre ça, mais c'est quand même un des seuls candidats qui ne vit pas en région parisienne du tout. Enfin, je veux dire, c'est... Pas que je dis quand on habite à Paris, on est déconnecté des réalités, mais c'est juste que c'est représentatif toujours plus d'un centralisme, etc. Lui, il incarne autre chose. Il incarne notamment une France des territoires, une France des périphéries aussi, qui ne se sentait plus représentée. Et je pense que ça permet d'aller remobiliser des gens qui n'y croyaient plus. D'ailleurs, on a des soutiens de la France insoumise de 2017 qui nous ont rejoints. On parle souvent de certains communistes qui ont rejoint Mélenchon. Écoutez, tant mieux pour eux. Enfin, je ne sais pas, c'est dommage. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Ça, je n'ai pas de problème là-dessus. Mais il y a aussi beaucoup d'insoumis qui nous ont rejoints, notamment la suppléante de Jean-Luc Mélenchon, à Marseille, qui a rejoint la campagne de Fabien Roussel, des philosophes, beaucoup de philosophes, d'intellectuels aussi, qui nous rejoignent en disant qu'ils ne se sentaient plus représentés. Et je suis persuadé qu'une partie de l'électorat, même si j'ai du mal à appeler ça l'électorat, mais de la base sociale qui soutient la gauche, était orpheline. Et elle était encore plus en 2022.
Et sur quelle autre thématique vous trouvez que la gauche avait abandonné ses idées. Vous avez parlé de la sécurité. Est-ce que également la thématique de la souveraineté est une thématique qui avait été abandonnée par la gauche? Et lorsque une personne soulevait un sujet lié à la souveraineté et qu'elle n'était pas apparentée au Front National, on lui déversait cette comparaison. On lui disait « Ah, mais vous proposez comme Marine Le Pen un projet de souveraineté ». Est-ce que la gauche, par crainte d'être associée justement à cette espèce de principe de réductio ad Marine Le Pen ou au Front National, a entraîné et a eu pour conséquence de la gauche de se défausser d'une multiplicité de sujets et qui, par la continuité des choses, a fait perdre une bonne partie de son électorat?
Moi, j'en suis persuadé. Il y a eu la question de la sécurité, mais la question de la souveraineté est un très bon exemple. D'ailleurs, quand il y a eu les traités de Maastricht, le Parti communiste est le seul parti à avoir voté contre tous les traités libéraux européens. Et à l'époque, on nous disait, vous êtes d'extrême droite, vous faites l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon y compris, à l'époque, défenseur de Maastricht, disait du Parti communiste de France, français, honte à vous, vous venez défendre le nationalisme et la souveraineté française. Ben, nous, on a toujours été clair là-dessus. On n'a aucun problème à dire que oui, on a besoin d'une souveraineté économique en France. Et on est d'autant plus à l'aise là-dessus que, malheureusement, les dernières années nous ont montré, et notamment la pandémie, nous a montré à quel point notre pays était dépendant des autres puissances, sur les masques notamment. Enfin, il y a quand même eu scandale là, qu'on a tendance à oublier, parce qu'aujourd'hui, il y en a partout, mais on n'en avait pas au début quand même, sur notre industrie, en règle générale, les productions qui sont la production française. Et oui, moi, je pense que c'est un vrai problème, notamment parler d'industrie. Hein. Enfin, je veux dire, parce que là, notre souveraineté est bien évidemment intimement liée, je pense, aussi à retrouver notre fleuron industriel, reproduire français, produire en France. En fait, oui, la gauche avait arrêté de leur parler. Enfin, moi, j'ai un souvenir, parce que je viens d'Amiens, et j'ai un souvenir marquant de la campagne de 2012. Alors, j'étais jeune, je ne votais pas, j'étais mineur à l'époque, mais je me rappelle, moi, il y a une lutte qui m'a marqué, c'est la lutte des Gouzières à Amiens, parce que mon père y a un peu bossé en plus. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Je passais devant tous les jours pour aller chez ma grand-mère, parce qu'elle habitait à côté de la zone industrielle. Et cette lutte m'a profondément marqué. Tous les candidats de gauche étaient venus sur le parking Gaudière en disant on va vous sauver. Finalement, c'est la gauche qui a fermé cette usine, fausse promesse, etc. Et après, plus personne n'a parlé d'industrie. C'est un gros mot, l'industrie, y compris encore aujourd'hui, hein, dans certaines campagnes, certains à gauche, c'est un gros mot. Mais nous, on n'a jamais eu aucun problème à dire qu'il faut retrouver notre souveraineté économique, qu'il faut retrouver notre fleuron industriel, et que c'est ça qui nous permettra aussi d'être autosuffisants, et aussi, il faut le dire, de lutter contre le réchauffement climatique. Parce que aujourd'hui, une des premières causes de d'émissions de gaz à effet de serre, c'est lié à nos importations. Donc oui, il y a la question de la sécurité qui a été abordée par la gauche, la question de la souveraineté, mais il y a d'autres sujets. Moi, je pense aussi à clarifier sur l'écologie et une production énergétique décarbonée et la question du mix énergétique avec du nucléaire. Aujourd'hui, on est bien seul à gauche, malheureusement, à porter ça. Il y a aussi la question de grands travaux à créer partout, notamment des grands travaux, notamment réindustrialiser le pays, j'ai déjà dit. Il y a la question de la laïcité, de la liberté d'expression, enfin, tous ces sujets-là. Regardez, Fabien Roussel a rendu un hommage à Charlie Hebdo. Une partie de la gauche nous a montré du doigt sur cet hommage à Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, enfin, c'était des journalistes. Charb, il venait à la fête de l'UMA tous les ans. Il était très proche du Parti communiste. Enfin, je veux dire, on a toujours été ceux qui ont défendu le droit au blasphème, le droit à la liberté d'expression. Et aujourd'hui, oui, une partie de la gauche qui nous montre du doigt pour redéfendre ça. Ben, nous, on n'a aucun problème avec ça. Et je pense que ça fait du bien, enfin, de retrouver une gauche populaire qui défend la République sociale, la laïcité, la liberté d'expression, le mix énergétique. Et en effet, ça faisait trop d'élections maintenant que la gauche avait oublié toutes ces thématiques-là. Qui ont fait pourtant le socle de notre République, le socle de notre nation, et que la gauche est construite autour de ça. Quand même.
Pour revenir quelques instants sur votre exemple concernant Charlie Hebdo, sur le fait que vous avez été montré du doigt, compte tenu de l'hommage que Fabien Roussel a rendu, vous avez parlé du droit au blasphème. À votre avis, justement, pourquoi une partie de la gauche vous a pointé du doigt? Et je rebondis également, je fais un lien avec la réaction de Sandrine Rousseau lorsque Fabien Roussel a parlé de gastronomie et qu'il a cité en exemple des plats, disons-le clairement, et c'est ce qui l'a gêné, c'est qu'ils sonnent bien français.
Mais non, mais...
français en termes d'origine. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, mais je vois. Mais,
le côté communautariste qu'il peut y avoir dans une partie de la gauche.
Ouais, je pense qu'il y a un côté communautariste. Aujourd'hui, on nous critique aussi d'être universaliste, hein, qui était pourtant la base de la République, de dire que tous les citoyens sont égaux, se valent, peu importe leur religion, leur croyance, etc. Et aujourd'hui, non, on fait du particularisme, du communautarisme à gauche, parce que sinon, on nous traite de raciste. D'ailleurs, Fabien Roussel a été traité de raciste. Et d'ailleurs, sur la polémique, juste rapidement, sur la gastronomie, hein, Sandrine Rousseau a en plus déformé... Bon, y compris Fabien aurait dit saucisson, enfin, voilà. Mais je veux dire, elle a complètement déformé ses propos. Hein. Fabien, elle a dit une bonne viande, un bon fromage, un bon vin. Et elle a transformé ça en saucisson pinard, je sais pas quoi, pour le faire passer d'ailleurs pour un beauf. Et y compris, il aurait pu le dire, hein, saucisson et vin. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème à défendre aussi que le saucisson soit accessible, le bon saucisson soit accessible.
Le sujet, c'est le pouvoir d'achat.
Et le vrai sujet, et c'est ça, le vrai sujet, c'est le pouvoir d'achat. Pour l'anecdote, moi, j'ai fait un plateau le lendemain sur CNews, je crois, pas du tout pour débattre de ça, mais en off, tout le monde nous dit « Ah, coup de maître de Fabien Roussel bah, », de toute façon, c'est ça qui l'a fait connaître. « Coup de maître de Fabien Roussel, vraiment, bien joué, bravo ». J'aurais dit « Non, mais, enfin, j'en ai discuté avec Fabien, mais jamais de la vie, on pensait que ça ferait polémique, cette histoire. Jamais de la vie, c'était pas, on ne cherchait pas la polémique. Pour nous, ça va de soi de défendre le pouvoir d'achat et défendre que le bon, le beau et que le meilleur soient accessibles à toutes et tous. Enfin, je veux dire, c'est une valeur de gauche. Mais aujourd'hui, oui, je pense par opportunisme politique en bonne partie. Hein, je pense que Sandrine Rousseau, c'est avant tout par opportunisme que par fond politique. On se fonde dans du particularisme, dans la recherche de la petite polémique et aussi dans la défense du communautarisme. Je vais prendre aussi un dernier exemple parce que moi, c'est le truc qui m'a profondément choqué, c'est la position de Sandrine Rousseau sur les poupées sans visage, là. En disant mais ça laissera la créativité des enfants, ils pourront dessiner sur une poupée, mais tu dis mais on tombe dans quoi là, c'est pas ça le sujet. C'est le sujet, c'est qu'aujourd'hui oui on a un problème avec l'islamisme radical dans notre pays, oui on a un problème avec certaines écoles hors contrat, mais islamistes tout comme chrétiennes, tout comme les écoles hors contrat en général, je pense, ça c'est mon avis, et je trouve ça fou de pas oser dire qu'il y a un problème. Enfin, je veux dire, c'est se fourvoyer complètement, soit c'est par opportunisme politique. Et je crains que ça soit sur la deuxième option. Je pense pas que ça soit juste une question de déconnexion. Je pense que c'est aussi et surtout une question d'opportunisme politique parce qu'elle y voit un électorat les attraper. Mais je pense que on y perd toujours à faire ça, en fait.
Très simple. Quelle est la vision du Parti communiste français sur le projet de réindustrialisation? Est-ce que vous avez parlé également tout au début de notre entretien de nationalisation d'entreprise? Vous avez fait le lien avec un non, esprit démocratique.
On a aussi d'entreprise. Sur l'industrie, la réindustrialisation. Aujourd'hui, c'est marrant parce que tous les candidats, maintenant, enfin tous les candidats, une bonne partie des candidats aujourd'hui en reparlent là, depuis peu. Même Emmanuel Macron, même Valérie Pécresse, qui a été pourtant responsable, et aux commandes Anne Hidalgo aussi, qui ont été responsables de la perte de notre fleuron industriel. Nous, on pense qu'un pays sans industrie est un pays pauvre. Et d'ailleurs, il suffit de le voir. C'est marrant parce qu'il y a une semaine ou 10 jours, j'ai été avec un journaliste de W9 à Amiens, parce qu'il retraçait un peu mon engagement militant. On s'est baladé dans la zone industrielle et j'y avais pas été depuis longtemps. Et j'étais frappé du voir le peu d'usines qu'il y avait. C'était quasiment, enfin, une bonne partie, c'était devenu des services. Et en fait, on est aujourd'hui une économie qui se repose avant tout sur des services. Or, les services, ce n'est pas une économie viable, c'est une économie qui est soumise aux aléas de énormément de choses. Et quand il y a une crise, par exemple sanitaire, comme on l'a connue, puis économique, en réalité, on est susceptible de se les prendre en pleine figure. Or, un pays qui, du coup, a besoin de l'agriculture, etc., d'avoir des richesses là-dessus, bien évidemment, mais aussi de produire des produits manufacturés pour pouvoir produire des richesses. C'est essentiel. Et il faut réindustrialiser le pays pour ces questions-là. Il faut réindustrialiser le pays pour permettre de rapprocher aussi la production de la consommation pour lutter contre le réchauffement climatique. Il faut réindustrialiser le pays pour retrouver notre souveraineté économique et ne pas dépendre d'États et des bons vouloirs des États à l'étranger. C'est essentiel sur ces points-là. Maintenant, comment faire? Parce que c'est ça aussi la question qui, bien évidemment, nous importe. Comment faire? Bah, tout d'abord, il faut mettre des moratoires sur les délocalisations qui sont en cours. Il y a des délocalisations en cours dans le pays, il y en a énormément. Il faut mettre des moratoires sur ces délocalisations et regarder au cas par cas comment on permet justement à d'éviter ces délocalisations, si besoin est que l'État intervienne directement pour les mettre sous la protection de la République, etc. Mais par exemple, on a aujourd'hui des fonderies qui ferment, on a des entreprises de pneus avec Winchester qui a pas si longtemps ça, qui a délocalisé, etc. Il faut qu'on puisse regarder au cas par cas et mettre des moratoires sur ces délocalisations et les empêcher parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Deuxièmement, on va avoir besoin de nationaliser certaines entreprises, certaines usines, notamment les usines et les entreprises stratégiques. Aujourd'hui, moi je trouve ça fou et n'importe qui trouve ça fou autour de moi qu'on se dise que l'industrie pharmaceutique, par exemple, est gérée par du privé. Aujourd'hui, on se fait du fric sur notre santé. Notamment sur la production de médicaments. Et après, on s'étonne que les Français n'ont plus confiance. Mais ça joue aussi. Les Français n'ont plus confiance dans les médicaments, dans le vaccin, etc. Certains, hein, pas la grande majorité, mais certains. Mais en même temps, c'est géré par du privé, c'est Big Pharma, il y a des brevets partout, on est incapable de voir tout ça. Si on renationalise, au moins l'État aura la mainmise sur cette production industrielle. Donc ça passe aussi par cette réindustrialisation. Et cette réindustrialisation, elle passe également par la nécessité, et c'est pour ça que ça va de pair avec la nationalisation de banques et d'assurances, de baisser certaines charges pour les entreprises, pour certaines usines. Alors là, on va me dire que je suis de droite, parce que parler de charges pour l'entreprise, c'est de droite. Mais je m'explique. Aujourd'hui, ce qui coûte cher à l'industrie, ce n'est pas les salaires. Ce qui coûte cher aujourd'hui aux entreprises, notamment aux PME, c'est les remboursements des taux d'intérêt qu'ils font aux banques, c'est l'électricité, etc. Et moi, je pense les assurances, etc. Et c'est pour ça que c'est important de nationaliser certaines assurances et certaines banques pour que justement l'octroi de prêts que les entreprises et les industries ont nécessairement besoin pour développer leur outil de production, etc., pour renouveler leur outil de production, eh bien, elles soient nationalisées et donc gérées par l'État et conditionnées à des enjeux sociaux et environnementaux. C'est-à-dire qu'une usine qui voudra avoir ses prêts, si en contrepartie, pour qu'elle les ait, ses prêts, à taux d'intérêt zéro, pourquoi pas d'ailleurs, si elle les a, ben, il faut nécessairement qu'elle ait par exemple 10% de jeunes embauchés en CDI, qu'elle respecte l'égalité entre les femmes et les hommes, etc. Et ça lui permettra derrière de baisser ses charges et ça permettra de l'autre côté de répondre aux enjeux de notre siècle, aux enjeux sociaux et environnementaux. Et nationaliser les assurances pour la même chose, pour la même raison. Parce que les assurances, ça coûte un fric de dingue pour les industries. Et c'est pour ça que c'est ça nos leviers. C'est ça nos leviers aujourd'hui pour permettre de réindustrialiser le pays. Et enfin, moi, je pense qu'il faut être ferme aussi avec certaines industries qui délocalisent. Si vraiment on est en bras de fer, etc., que certaines usines délocalisent, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi de leur dire que s'ils délocalisent à l'autre bout du monde dans des conditions déplorables pour l'environnement, que nous-mêmes, on n'accepte pas en France, dans des conditions déplorables, dans le droit du travail, je pense par exemple au travail des enfants, etc., et ben moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de leur dire, et ben c'est nada, vous n'aurez pas accès à notre marché, au marché français. Vous ne pourrez pas vendre des produits manufacturés qui ont été faits dans des conditions que nous nous refusons de mettre en place en France, notamment sur le travail des mineurs, notamment sur les conditions de travail des salariés, et notamment aussi sur les enjeux environnementaux. Je pense qu'il faut être ferme là-dessus. Et tous ces leviers-là, je pense, nous permettront de réindustrialiser le pays, de retrouver notre fleuron industriel. Nous avions nous étions à la pointe de l'industrie sur beaucoup de choses. On produisait des vêtements en France. Moi, je viens d'une région aussi qui était avant tout une industrie basée sur l'industrie du textile. Eh bien, nous disons que nous avons produit des habits en France. Eh bien, nous pouvons les reproduire en France. Donc, réindustrialisons le pays, notamment pour toutes ces choses-là.
Vous avez parlé du monde agricole, quelques mots. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Et est-ce que vous pouvez nous dire comment vous pourriez aider les agriculteurs qui, on connaît les chiffres, les difficultés auxquelles ils font face, les difficultés économiques, les difficultés au niveau du travail et également les difficultés d'un point de vue sanitaire compte tenu des nombreux pesticides qu'ils utilisent. Quelles seraient les mesures du coup du Parti communiste?
Il y a plusieurs mesures, bien évidemment. Une des mesures, c'est en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de paysans qui n'arrivent pas à vivre de leur production, de leur élevage, de leur exploitation agricole. Et on a besoin de pouvoir avoir un contrôle à ce sujet. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut revaloriser considérablement les prix, notamment qui leur permettent de vendre. Des fois, ils vendent même à perte, enfin, je veux dire, qu'ils puissent vivre dignement de leurs produits, des produits de la terre qui sont pourtant une richesse indispensable, et l'alimentation est bien évidemment indispensable. Un pays qui n'est pas capable de subvenir aux besoins de sa population est un pays qui fait face à de nombreux dangers. Donc, nous, on est pour. Alors, ça va nécessairement augmenter un peu les prix, mais on est pour qu'il y ait un contrôle, notamment dans la grande distribution, un contrôle des prix de la grande distribution. Parce que la réalité, c'est que c'est aujourd'hui la grande distribution qui impose les prix et notamment qui tient à la gorge les producteurs. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut déjà pouvoir avoir des leviers d'intervention beaucoup plus forts. Et de répression même hein, à l'encontre des grandes distributions pour justement que ça soit l'État qui contrôle les prix et même avant tout d'ailleurs les producteurs plus que l'État, que ce soit les producteurs qui puissent fixer eux-mêmes les prix auxquels ils vendent le blé, le maïs, la viande, etc. Ça c'est indispensable. Bien évidemment, ça, de l'autre côté, ça va quand même avoir un impact sur les prix. Alors déjà, moi je suis pour que du coup la grande distribution elle arrête de se faire énormément de marge sur le dos des producteurs, mais nécessairement malgré tout, hein, faut se le dire, hein, ça va augmenter les prix de certaines denrées alimentaires. Encore plus si on se dit que il faut arrêter avec l'élevage en batterie par exemple, etc. Il faut de l'élevage en plein air, etc. Nécessairement, ça va augmenter les prix. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus et ça sert à rien de se mentir. Mais de l'autre côté, ben, nous ça va de pair avec nos revendications sur la revalorisation, l'augmentation du pouvoir d'achat des Français par une revalorisation des salaires, par une revalorisation des pensions qui permettront à ce que les Français, justement, puissent accéder au bon, au meilleur. Et tout ça de bonne qualité, sans sous-rémunérer les producteurs. Je pense que les deux sont indispensables. Rémunérer mieux les producteurs, et ben pour ça, il faut que les Français aient davantage de pouvoir d'achat et avoir un contrôle sur les prix. Et ça, c'est le rôle des producteurs. Sur les pesticides, etc., tous les pesticides ne sont pas mauvais. Enfin, je veux dire, y a des pesticides qui sont indispensables et que d'ailleurs personne ne remet en cause. Et voilà. Et maintenant, il faut regarder en effet au cas par cas quel pesticide est nocif pour la santé, lesquels ne le sont pas, quels produits de substitution peuvent être mis en place, etc. Et sur ça, il faut bien évidemment avoir aussi des contrôles. Et je pense que pour ça, on doit avoir une intervention, notamment de nos scientifiques, parce qu'on traite souvent ces questions avec beaucoup de dogmatisme, beaucoup de peur et tout. Et je vous avoue que moi, par exemple, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité sur ces questions-là et se dire aussi qu'on ne sait pas tout et qu'il faut aussi des fois écouter ce que les scientifiques ont à dire sur tel ou tel pesticide, est-ce qu'il est nocif, est-ce qu'il n'est pas nocif, est-ce qu'il faut interdire. Voilà. Ça, c'est important de pouvoir le mettre sur le devant de la table. Et enfin, sur l'élevage en batterie, etc., les conditions d'élevage qui des fois sont des conditions déplorables, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on préfère... on est favorable à Fabien Roussel à cette petite phrase qui dit... On est pour les fermes, on est pour les usines, mais on est contre les fermes-usines. Donc nous, on pense qu'il faut mettre fin à l'élevage très intensif pour permettre justement de développer davantage d'élevage herbager, enfin d'élevage en plein air, etc. Et du coup, derrière, bon, ça va nécessairement augmenter les prix, mais nous, notre objectif, c'est bien évidemment de revaloriser le pouvoir d'achat des Français, comme je l'ai dit précédemment, justement pour pouvoir accéder au meilleur. Et ça implique par contre derrière aussi, il faut le dire, hein, de potentiellement, et je pense qu'il faut aller vers ça quand même, diminuer un peu sa consommation de viande.
Parlons d'Europe maintenant. Quelle est la position du Parti communiste français sur la gouvernance européenne? Et je fais écho au traité. Vous avez commencé à aborder tout à l'heure en parlant du traité de Maastricht. La position du Parti communiste sur les traités, est-ce que il y aurait une menace qui avait été notamment portée par la gauche, quand je dis la gauche, je parle notamment de Jean-Luc Mélenchon, lors des élections précédentes, avec le principe du plan A, plan B. Est-ce que le Parti communiste français dispose de ce type de menace qui permettrait justement de faire basculer la position de l'Union européenne ?
Ouais, la réalité, c'est que la France insoumise, elle y est revenue, hein, d'ailleurs, sur ce plan A, plan B. Après... bon, c'est plus une question, c'est plus, je trouve, une image. Enfin, je ne suis pas forcément opposé à ça, mais c'est plutôt une image. La réalité, c'est que, déjà sur l'Europe, c'est aujourd'hui, l'Europe est en gros une accumulation de traités libéraux, etc., contraignants, avec maintenant une gouvernance européenne qui s'est installée à travers ces traités, etc., et qui impose des critères économique qui nous impose d'avoir de limiter notre déficit budgétaire, qui nous contraint à limiter notre taux d'endettement, etc. Et donc à mettre en place des politiques libérales dans notre gouvernance économique. Donc on a perdu notre souveraineté là-dessus, ça c'est indéniable. Je ne suis même pas sûr que c'est la gouvernance européenne d'ailleurs qui a le poids aujourd'hui pour discuter de ça, parce que c'est des traités qui ont été signés entre pays. Mais bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne est une Union européenne au service du capital, au service des libéraux, au service du profit avant tout. Et nous, ça nous pose un sérieux problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons toujours voté contre l'ensemble des traités de libéraux prônés par l'Union européenne.
Et du coup, pour autant,
voilà, j'en viens. Pour autant, le système de l'Union européenne est nocif, mais nous ne sommes pas pour un repli sur soi à l'échelle de nos frontières, et on ferme les frontières, et basta, et chacun fonctionne dans son coin. Nous, ce qu'on est favorable, c'est retrouver la souveraineté, que chaque État retrouve sa souveraineté, certes, mais qu'on mette en place un système de coopération entre les peuples, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans des économies, mais pas que des économies, dans des mondes ouverts. On a besoin aujourd'hui de pouvoir se déplacer, de pouvoir échanger aussi nos productions avec nos voisins. Je ne parle pas que... il faut aussi avoir l'humilité de dire qu'on ne peut pas non plus tout produire aujourd'hui, tout en France, etc. Il ne s'agit pas de revenir à un système avec des frontières fermées qui serait, je pense, en réalité une régression. Mais ce qu'il faut, c'est aujourd'hui une Europe qui respecte bien évidemment les souverainetés de chaque peuple, mais qui ait des systèmes de coopération entre les peuples. Et donc, comment on y arrive? Moi, je pense que il faut aussi se le dire, c'est que l'Europe se repose avant tout sur un échange entre la France et l'Allemagne, sur le lien franco-allemand, en tout cas qui est très fort. Et je veux dire, on n'est pas le Royaume-Uni, la France, dans l'Union européenne. On n'est pas non plus la Grèce. L'Union européenne sans la France, il n'y a plus d'Union européenne. Comme sans Allemagne, il n'y a plus d'Union européenne. La réalité, c'est que si demain, la France met alliée avec d'autres pays, je pense notamment au gouvernement espagnol, je pense notamment au gouvernement, ça a changé, donc je n'ai pas regardé ce qu'il en était, mais au gouvernement portugais, s'il est toujours dans ce coin-là, etc., que tous ces États se mettent ensemble pour dire aujourd'hui, nous retrouvons notre souveraineté, et aujourd'hui, nous ne refusons le traité de Maastricht, les 2% de déficit budgétaire, etc., eh bien là, je peux vous dire que oui, nous arrivons à avoir une Europe, j'en suis persuadé, qui soit différente. Mais ça implique de sortir de tous ces traités-là. Et donc, la question de la sortie de l'Union européenne ou pas, je trouve, est en réalité quelque chose d'assez secondaire. La question, c'est surtout de qu'est-ce qu'on construit après. Parce qu'en réalité, sortir des traités, si on veut, il y en a qui nous disent c'est sortir de l'Union européenne. Ils n'ont pas entièrement tort. Sortir des traités, c'est sortir de l'Union européenne. Mais nous, ce qu'on veut, c'est surtout ça, nous, l'image qu'on veut dire. C'est qu'on ne veut pas l'image d'une France renfermée sur elle-même. On ne veut pas d'un Frexit. Nous, ce qu'on veut, c'est d'une Europe qui respecte la souveraineté des peuples. Une Europe qui soit notamment aussi capable de faire autre chose que de servir les intérêts du capital et de maximiser les taux de profit. Et donc, je pense que si demain la France porte cette voie-là, je suis persuadé qu'elle est capable de faire fléchir de nombreuses choses. Et déjà, moi, ce que je propose, c'est qu'elle se retire des traités, notamment de Maastricht. Mais de fait, l'Union européenne risque d'être quelque peu bouleversée, telle qu'elle est constituée actuellement. Mais on n'est pas pour un modèle à la Brexit, Royaume-Uni, le Royaume-Uni a décidé de se casser et finalement, il fonctionne en vase clos, etc. Moi, je pense que c'est une connerie.
Un petit peu, si vous voulez, élargir le spectre maintenant, en parlant de politique internationale de manière générale. Alors, je vais vous demander quelle est la position du Parti communiste en matière de politique internationale de la France. Alors, la question de la souveraineté de la France est un petit peu à la mode dans le débat politique actuellement. Beaucoup d'obédience politique dans des manières différentes y adhère. Quel est vous votre sentiment là-dessus? Et je pense que la crise ukrainienne, russo-ukrainienne actuelle peut servir d'exemple en matière d'illustration de la position que doit adopter la France. Je pense notamment à la participation, en tout cas à l'intégration à l'OTAN, à la proximité avec les États-Unis d'Amérique, aux possibles probable conflit économico et on l'espère pas militaire qui se profile peut-être entre les États-Unis et la Chine. Voilà, quelle est la position du Parti communiste là-dessus? Est-ce que il y a, et ça va amener une question pour plus tard, mais est-ce qu'il y a une tradition du Parti communiste là-dessus sur ces sujets, notamment de proximité peut-être avec des pays d'anciens pays du pacte de Varsovie ou voilà.
Déjà, le Parti communiste, c'est un parti qui s'est fondé sur cet enjeu d'internationalisme, d'autodétermination des peuples, de paix. Enfin, je veux dire, on s'est constitué en 1920, justement, en réaction à la boucherie de la Première Guerre mondiale et les premières luttes des partis communistes, du Parti communiste et le siècle d'histoire du Parti communiste français, est empreint justement de ces luttes-là. Je pense à la guerre du Rif, à l'invasion de la Roure, à l'indépendance de l'Algérie, la lutte contre la guerre d'Indochine, à la libération de Nelson Mandela, à la fin du régime, à la libération, à une paix juste et durable en Palestine plus récemment, etc. Bon, voilà, ça c'est juste pour introduire ces propos-là. Donc, bien évidemment, nous avons toujours eu et nous aurons toujours cette position internationaliste. Je pense que le maître mot doit être aujourd'hui deux choses. Enfin, les maîtres mots doivent être la désescalade et le multilatéralisme en respectant, je pense, le multilatéralisme en respectant l'autodétermination des peuples. Donc, sur la désescalade, tout d'abord, on le voit avec ce qui se passe en Ukraine, on est quand même au bord. On a les poudres qui sont là et la moindre étincelle pourrait potentiellement faire tout partir en vrille. En vrai, on n'est quand même pas à l'abri de ça. Moi, je pense que ni l'un ni l'autre n'y a intérêt. Mais pour le coup, quand on met beaucoup de militaires d'un côté, de part et d'autre de la frontière, armés, etc., on n'est pas à l'abri la moindre étincelle qui puisse se déclencher et mettre le feu aux poudres et que plus aucun État, en réalité, soit tributaire de ça. C'est ce qui s'est passé notamment pendant la Première Guerre mondiale, ce qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Donc sur ça, il faut porter une voie de paix, une troisième voie, je pense, de désescalade. Il faut se dire, moi je pense que l'important, c'est l'autodétermination du peuple ukrainien, qui aujourd'hui, on écoute peu ce qu'il a à dire, parce qu'en fait, il est au milieu de deux enjeux, au milieu de deux blocs impérialistes, je n'ai pas peur de le dire. D'un côté, l'OTAN, qui a un enjeu géostratégique énorme, notamment d'avoir un pays qui a un très grand accès à la frontière russe, donc qui veut faire rentrer, notamment les États-Unis, du coup, qui veulent faire rentrer pour avoir un allié juste à côté de la Russie, de la grande Russie, ce qui est un réel problème. Et de l'autre côté, la Russie, qui, elle, a un enjeu également à ce que l'Ukraine reste proche d'elle et puisse rester un allié justement pour éviter l'avancée de l'OTAN. Mais derrière, la question, c'est à quel moment on va respecter le peuple ukrainien dans toute cette histoire? Et le plus important, du coup, c'est d'avoir une désescalade. Et moi, je pense que cette désescalade doit commencer par être un mot clair, c'est qu'on doit être ferme sur le fait que l'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN. Et non seulement elle ne doit pas rentrer dans l'OTAN, parce que je pense que c'est un affront qui est fait, mais elle ne doit pas entrer dans l'OTAN parce que cette organisation est une organisation guerrière, ni plus ni moins, qui sert les intérêts d'une seule puissance, les États-Unis d'Amérique, l'Amérique du Nord, etc. Et je pense que, moi j'irai plus loin, c'est que la France doit également sortir de l'OTAN et du commandement, en premier lieu du commandement armé, mais de l'OTAN, parce qu'aujourd'hui, on le voit, on est entraîné dans ce conflit-là, malgré nous, et dans énormément d'interventions à l'étranger, on est malgré nous, parce que les États-Unis avaient un intérêt à aller dans tel ou tel pays, etc., on est engagé malgré nous dans certains territoires. C'est un scandale, c'est scandaleux pour le respect de la souveraineté, de l'autodétermination des peuples, y compris de l'autodétermination des peuples du peuple français. Enfin, je veux dire, on ne décide pas de s'engager dans tel ou tel coin aujourd'hui. Donc il faut sortir de cette armée guerrière qui est l'OTAN, dans cette organisation guerrière qui est l'OTAN. Ça, j'en suis persuadé, c'est notre cheval de bataille. L'autre enjeu, c'est la désescalade, c'est également le désarmement, et notamment le désarmement nucléaire. La France doit porter une voie de désarmement de l'arme nucléaire. Elle doit signer le traité non seulement de non-prolifération, mais surtout de désarmement nucléaire. Je pense que c'est indispensable. Aujourd'hui, nous avons la plupart des pays dans le monde qui ont ratifié ça. Seules les puissances nucléaires ne le ratifient pas. Il faut aujourd'hui que la France porte une voix de paix. Et ça, je pense que c'est le premier enjeu, se dire que l'arme nucléaire, on refuse l'arme nucléaire et tous les pays doivent amener à en faire de même. Enfin, c'est l'autodétermination des peuples aujourd'hui qui résume aussi notre vision de l'international, notre vision de la paix. C'est notamment du coup de respecter le peuple palestinien qui aujourd'hui émet des sanctions à l'encontre d'Israël, qui aujourd'hui a des visées impérialistes sur le peuple palestinien, qui installe des colonies sur le territoire palestinien, le territoire palestinien n'a même plus la maîtrise de son territoire. C'est aussi respecter le peuple cubain qui subit un blocus inadmissible de son voisin américain. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi réaffirmer avec force l'autodétermination des peuples. Et enfin, sur la politique étrangère, moi, j'aimerais que, au lieu d'envoyer nos forces extérieures, militaires extérieures à l'extérieur du pays en intervention extérieure, je pense qu'on ferait mieux d'envoyer nos militaires au service des populations, et c'est aussi l'idée de coopération entre les peuples que j'y crois profondément à cet aspect-là, et notamment, c'est dire que s'il y a eu un tsunami, par exemple, il y en a eu un récemment en Amérique latine, eh bien, on y envoie nos militaires dans l'aide aux populations plutôt que au Mali pour servir les intérêts des entreprises françaises en France-Afrique, etc. Donc moi, je pense que c'est sur ces trois angles-là, c'est désescalade, autodétermination des peuples et coopération entre les peuples. Je pense que ça doit être les trois maîtres mots de la politique internationale française.
On dit souvent que ce qui a garanti la paix en Europe, c'est non pas le fait d'avoir créé cette Europe, créé l'Union européenne, mais c'est d'avoir l'arme atomique. Beaucoup disaient que cette dissuasion nucléaire permettait justement par crainte de l'État ou du pays qui voudrait rentrer dans un conflit, de se regarder quelque part en chien de faïence et de ne jamais quelque part faire la guerre. Est-ce que vous écouter, je pense que vous n'êtes pas d'accord avec ça.
Non, moi je suis pas d'accord. On est assis quand même sur un arsenal qui peut mettre fin à l'existence de l'espèce humaine, tout simplement. Et je pense pas que c'est comme ça. Au contraire, en fait, on a un arsenal qui est énorme. Et potentiellement, si demain on a un fou qui est à la tête de l'État, on peut arriver à un système qui pourrait être dramatique. Enfin, je veux dire, y compris, on le voit aujourd'hui. Enfin, l'Europe n'a pas été en paix. Enfin, je veux dire, là, ce qui se passe en Ukraine vient mettre en lumière. On est en train de potentiellement, on va rentrer dans un conflit armé contre la Russie, et ce n'est pas la question de l'arme nucléaire qui est dissuasif. L'enjeu, c'est surtout de mettre en place des organisations internationales de coopération entre les peuples. Moi, je pense que c'est ça, l'angle. L'angle, ce n'est pas « je vais m'armer plus que le voisin, parce que comme ça, le voisin aura peur, il ne viendra pas m'attaquer. » Et le jour où lui sera plus armé, qu'il viendra nous attaquer, qu'est-ce qui se passera? On arrivera à un système où on a un arsenal qui fera exploser de toutes parts la planète de toutes parts. Non, ce qu'il faut, c'est mettre en place des systèmes de coopération entre les peuples. C'est ça notre angle d'attaque. Ça ne doit pas être « je m'arme le plus possible pour faire peur aux voisins ». Sinon, là, c'est tout le contraire de la désescalade. C'est au contraire, c'est l'escalade. Et on n'est pas à l'abri qu'un jour, il y ait un accident, ou qui est pire, qui est une invasion guerrière, qui puisse être dramatique parce qu'on a des visées. Non, je pense qu'il y en a beaucoup aussi, les libéraux disent… Parce que les libéraux, eux, disent, ceux qui disent d'ailleurs, qui défendent que c'est le système de marché, l'Europe de marché, etc., du marché qui a permis de pacifier les relations internationales. Moi, je pense, c'est marrant parce que, il n'y a pas que de la divergence là-dessus, mais je pense que ce qu'ils disaient, c'est qu'en fait, la coopération, alors eux, pour eux, ils s'arrêtent à la coopération économique entre les entreprises, etc. Je pense qu'au contraire, ça anime les tensions, mais la réalité, c'est que je pense que la coopération entre les peuples, que les organisations qui permettent la coopération entre les peuples, c'est ça qui permettra de pacifier en réalité les relations internationales, parce que la réalité, c'est qu'aucun peuple n'a intérêt à faire la guerre à l'autre peuple, et je pense que c'est ça, en fait, la base. Et les libéraux, dans les discours, dans les beaux discours, ils disent, en réalité, c'est ce qu'ils disent, mais la réalité est tout autre. Parce qu'en fait, quand on cherche à maximiser son taux de profit, on cherche aussi à chercher des nouveaux marchés, on cherche aussi à chercher de nouvelles richesses, à chercher à détruire les industries de l'autre pour pouvoir s'accaparer des nouveaux marchés. Donc, on voit que non, en fait, le capitalisme n'a pas amené la paix sur la planète, mais la réalité, c'est ce qu'il faut, c'est de la coopération internationale entre les peuples.
Bon, j'aimerais un petit peu aborder cet entretien de manière plus philosophique, on va dire, en termes de sciences politiques. Tout à l'heure, j'ai parlé de potentielle proximité avec le pacte de Varsovie, etc. Ça peut faire sourire, mais l'idée derrière ça, c'était aussi pour amener le sujet sur finalement qu'est-ce qu'être communiste aujourd'hui en 2022. Alors, est-ce que le parti aujourd'hui, il tente un petit peu de se défaire de son image traditionnelle, de son héritage, et j'en veux pour ça un acte qui peut-être est plus symbolique qu'autre chose, mais le retrait de la faucille et du marteau, du drapeau par exemple. Est-ce que c'est un héritage, est-ce qu'il y a une forme de dédiabolisation et de détachement par rapport à ce que représentait le Parti communiste français et le communisme de manière générale? Un petit peu comme ça a pu être le cas à l'extrême droite avec Marine Le Pen qui a tenté de se défaire de l'image de son parti, enfin du parti de son père. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui est assumé et qui est au contraire volontairement porté aujourd'hui dans le paysage politique français de votre part?
Bon, déjà, juste sur l'alliance, enfin le traité de Varsovie, les alliances avec les autres États, bon, aujourd'hui, il n'a pas de sens, enfin, il n'existe plus, et donc, de fait, il n'a pas de sens, y compris la Russie, aujourd'hui, n'est pas un État socialiste, hein, enfin, ni communiste, hein, encore moins communiste. Je veux dire, je tiens à dire, enfin, c'est vraiment parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, d'ailleurs, enfin, j'en discutais avec ma dernière, à un point, qui me disait, ah bon, la Russie, c'est pas communiste, je dis, non, c'est pas communiste. Non, au contraire, d'ailleurs, le premier parti d'opposition, c'est le parti communiste en Russie, mais non, c'est pas, c'est bien un parti d'opposition. Et sur ces questions d'héritage, moi l'héritage, je l'assume, l'héritage du Parti communiste français, je l'assume sans aucun problème. C'est l'héritage du Front populaire, de la résistance, du programme du Conseil national de la résistance, du programme des jours heureux. C'est la lutte pour la libération de Mandela, pour la paix en Algérie, contre la guerre d'Indochine, pour une paix juste et durable en Palestine, pour l'augmentation des salaires, pour les congés payés, etc. Ça, c'est notre héritage. Et moi, c'est cet héritage-là que je porte. Et aujourd'hui, moi, j'en ai ras-le-bol qu'à chaque fois, quand on dit « mais vous n'avez pas honte de votre héritage ?» Non, je n'ai pas honte de mon héritage. Et j'en ai, par contre, ras-le-bol qu'on vient de me dire que moi, je suis un salaud parce qu'on aurait du sang sur les mains. Non, le Parti communiste français a participé à la résistance, certes, et il y a des actes de guerre, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on ait du sang sur les mains et qu'on est des terroristes. Je ne pense pas. Enfin, moi, je serais pas là, sinon. Je pense qu'on a un bel héritage et qu'il faut l'assumer complètement. Maintenant, ce qui s'est passé à l'international, parce que c'est quand même ça aussi la question, et ce qui se passe encore, d'ailleurs, dans certains États qui se revendiquent, non pas communistes, mais socialistes ou autres. Bon, ben, la réalité, c'est que moi, je veux qu'on me juge sur ce que nous, on propose ici en France, et pas sur ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Enfin, je veux dire, l'autodétermination des peuples, c'est aussi respecter à chaque peuple de faire comme il le souhaite. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, sur la faucille et le marteau, sur certains termes qui ont pu évoluer, etc. Moi, la réalité, c'est est-ce que le fondement du communisme est encore là, à savoir l'épanouissement, le libre développement des individus, c'est l'objectif. Marx résumait le communisme en ça. Le communisme, c'est le libre développement des individus. Est-ce qu'il est toujours présent dans le projet du Parti communiste? Oui, il est toujours présent. Et je pense qu'on a toujours vocation à être un parti qui prenne le pouvoir et qui impose ce changement de société, le dépassement du système capitaliste. Et je ne pense pas que c'est qu'une histoire de logo. Moi, ça fait des débats, mais déjà, la faucille et le marteau, on ne l'a pas toujours eu, hein, même avant. Hein, enfin, je veux dire, on l'a eu pendant une petite période, certes. Aujourd'hui, la faucille et le marteau, ce n'est pas forcément le plus parlant pour beaucoup. La réalité, c'est la question du contenu. Enfin, moi, les gens me disent beaucoup, bah oui, mais vous avez perdu la faucille marteau. Je dis, mais attaquez-moi sur le contenu plutôt. Moi, je suis persuadé que le Parti communiste reste un parti révolutionnaire, est toujours un parti révolutionnaire. En tout cas, moi, je suis engagé pour ça. Et je suis toujours engagé pour ça. Voilà, et je pense que oui, nos façons de nous structurer, de nous organiser ont évolué, mais parce que la société a évolué. C'est important aussi de pouvoir être en continuelle réflexion. Et je pense que c'est une richesse d'ailleurs de ce parti, du Parti communiste, c'est que je ne connais aucun parti qui a autant d'espace démocratique et qui permet autant à des lignes de bouger sur la manière de se structurer, sur la manière de faire des campagnes, sur telle revendication qu'on met en avant, etc. Et ça, c'est une richesse pour notre parti. C'est un parti du coup qui vit avec son temps, qui vit avec sa société, et ce qui fait qu'aujourd'hui, Fabien Roussel montre que le Parti communiste est un parti d'avenir.
Et quel, je rebondis justement à ce que vous dites, quelle est la place aujourd'hui dans le logiciel idéologique, et même au-delà, programmatique, pour parler un peu plus concrètement, de l'héritage marxiste, purement marxiste cette fois-ci, dans la pensée du Parti communiste aujourd'hui, quelle place pour Marx finalement, si on peut simplifier cela, et surtout d'un point de vue très, très programmatique, très ponctuel sur ce qu'a apporté Karl Marx en termes de pensée économique, je pense notamment à la critique du capitalisme, quelle place est encore accordée aujourd'hui à cet héritage intellectuel au sein du Parti communiste plus largement, est-ce que vous pensez que cet héritage-là, il est partagé aujourd'hui par d'autres formations à gauche, et je pense particulièrement à la gauche de la gauche?
Je vais prolonger la question de Christophe, mais du coup ça va faire une longue question. Mais c'est, est-ce que finalement le Parti communiste français, donc au XXIe siècle, n'est pas quelque part l'héritage du socialisme au XIXe? Je vais m'expliquer. Dans la continuité de ce que disait Christophe quand il citait Karl Marx, quand il parle de l'État, il a une critique forte de l'État parce qu'il parle de l'État bourgeois, qui justement permet cette reproduction de la classe capitaliste. Or, quand on voit le programme du Parti communiste français, il y a moult mesures où il y a une place de l'État qui est prépondérante. On propose sur le sujet de la retraite, sur le financement du permis de conduire, sur la nationalisation des entreprises. Donc là, on voit qu'il y a une place de l'État qui est importante. Une place de l'État qu'on constate qui est très importante également dans le socialisme, dans les phases de processus d'évolution que Karl Marx décrit avant la finalité d'arriver au parti, avant d'arriver à la phase communiste.
Marx dit que c'est un processus, hein, d'ailleurs, la révolution, le communisme n'arrivera pas un grand soir d'octobre ou de je ne sais quel mois d'un seul coup. Pour autant, c'est un processus, et en effet, il a une critique vive du système étatique bourgeois, de l'organisation de l'État bourgeois. Maintenant, le communisme, je pense, mais bon, ça arrivera. Moi, je ne le connaîtrais probablement pas, le communisme. Je le connaîtrais une phase, je l'espère, avancée, mais peut-être pas directement du communisme. Mais il y aura de l'organisation. Moi, j'en suis persuadé. Il y aura des formes d'organisation. L'enjeu avant tout, je pense. La différence entre socialisme, communiste, etc. Bon, les mouvements ouvriers n'étaient pas encore très structurés, très organisés, etc. Il y avait plutôt des penseurs, notamment Marx, bien évidemment, qui commençaient à poser des brides et de la nécessité de s'organiser. Mais bon, il faudra attendre un peu plus tard quand même, et notamment en 1905, avec la création de SFIO, pour voir les premières organisations, les premiers partis socialistes, mais qui étaient partis socialistes, communistes, enfin, il n'y a pas une énorme différence. La réalité, c'est que l'enjeu avant tout, c'est de reprendre le pouvoir sur l'argent, de reprendre le pouvoir sur le capital. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes, je pense, et je l'affirme, un parti révolutionnaire. Il faut socialiser, dans un premier temps, les moyens de production, socialiser productions de richesses, socialiser dans le sens qu'il faut d'abord pouvoir avoir une gestion, une organisation qui permette à ce que toutes ces entreprises, etc., aillent vers l'intérêt général, vers l'intérêt, vers la planète et l'humain d'abord, c'est ce qu'on propose, vers l'épanouissement, le libre développement des individus. Et à terme, dans le processus, l'idée c'est qu'ils soient collectivisés, puis quasiment, enfin voilà, qu'ils soient gérés non plus par une instance étatique, mais par des instances différentes, notamment des organisations ouvrières. Parce qu'il y a la question de reprendre le pouvoir, et la question sur l'argent, sur le capital, et il y a la question des nouveaux pouvoirs dans les entreprises. Et là, ça, c'est ce qui me démarque aussi énormément avec les autres. C'est la question de quelle place les travailleurs vont avoir, quel pouvoir ils vont avoir dans les entreprises. Et nous, ce qu'on pense, c'est que justement, il faut créer ces nouveaux pouvoirs et que la démocratisation ne se fait pas juste par une rénovation, une réforme des institutions, elle se fait aussi et surtout, je dirais, dans les entreprises. Il faut créer des comités d'entreprise où les travailleurs aient pleinement le pouvoir dans la gestion, dans la politique de l'entreprise, là, dans les investissements de l'entreprise, de là où elle va aller, etc. Et je pense que c'est indispensable, et c'est d'autant plus indispensable que nous faisons face à une crise énorme aujourd'hui, actuelle, une crise sociale certes, mais aussi une crise environnementale, et je pense que les travailleurs sont les plus à même aujourd'hui de réfléchir comment leur outil de production, comment leur machine, comment la façon de faire peut justement répondre à cet enjeu-là, et non pas un enjeu de maximisation du taux de profit. Et donc, oui, moi je pense que le Parti communiste est aujourd'hui toujours un parti révolutionnaire, parce que justement, il pose cette nécessité de reprendre le pouvoir sur l'argent et que ce pouvoir soit redonné, parce qu'il n'a pas été, sauf quelques exemples dans l'histoire, donner ce pouvoir aux travailleurs, à la classe laborieuse. Et ça, moi, je suis persuadé, je le réaffirme avec force, et le Parti communiste l'affirme avec force. Et la réalité, c'est qu'on l'amène tel qu'on le pose aujourd'hui dans le programme. La réalité, c'est ça y figure. Alors, ça figure pas en disant le programme des jours heureux, c'est pas le capital. Hein. Mais c'est pas salaire prix profit non plus. Ça pose les nouveaux pouvoirs. Ça pose la nécessité que l'argent, la production de richesse, soit orientée vers les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux. Ça pose une plus grande part de la sécurité sociale et donc d'une redistribution des richesses, parce que la sécurité sociale, c'est aussi un système qui permet qu'une partie des richesses produites ne soit pas justement destinée juste à engraisser quelques actionnaires, mais qui soit redistribuée justement aux services qui soient redistribués, tout simplement. Donc oui, moi je pense qu'on est encore, bien sûr, j'en suis convaincu, qu'on se revendique toujours de Marx. D'ailleurs, on a eu un congrès des jeunes communistes il n'y a pas longtemps et on l'a réaffirmé avec force, avec des positions fortes sur les questions de dépassement du système capitaliste, etc., ce qu'on entendait derrière, de la nécessité de faire une révolution, et que, notamment, aujourd'hui, le Parti communiste, et je pense que le programme de Fabien Roussel, est profondément révolutionnaire, parce qu'il pose justement ces nouveaux pouvoirs, l'importance de reprendre le pouvoir sur l'argent, mais je pense que, et sur le capital, je pense que c'est ça aussi qui fait notre fondement révolutionnaire.
J'aimerais aborder quelque chose qui fait, disons-le clairement, qui fait peur aux Français. On évoque surtout, quand on évoque la gauche de base, mais surtout quand on évoque le Parti communiste, c'est la question du financement, des recettes, des coûts de l'ensemble des projets. Si je devais citer quelques projets qui sont portés, quelques propositions qui sont portées par le Parti communiste français, je pense au financement du permis de conduire, la nationalisation de grands groupes, la réduction d'impôts indirects. Donc la TVA, qui certes est inégalitaire, mais qui touche par sa logique d'inégalité de l'ensemble de la population, et donc qui est le premier impôt en termes de montant en France. Un projet également de retraite à 60 ans, l'augmentation de revenus des fonctionnaires. Présentés sur le papier, ce sont des projets, des propositions qui seraient défendues par tous. Mais est-ce que... et surtout, comment le Parti communiste français compte pouvoir tenir l'ensemble des propositions en termes de financement, de recettes ?
On a plusieurs leviers sur le financement, parce que de toute façon, il y a différents éléments qui ont été posés. Tout d'abord, sur la question de la sécurité sociale et des retraites. Le droit de retraite à 60 ans, on est aussi pour créer une nouvelle branche formation dans la sécurité sociale qui permettrait de créer un revenu pour tous les étudiants, qui représente une somme colossale, hein, 850 euros minimum pour tous les étudiants, c'est énorme. Mais derrière, ça, on l'a chiffré. Ce qu'on pense, c'est que pour la sécurité sociale, il faut d'abord arrêter les exonérations de cotisations sociales. Ça, c'est un premier levier. Il faut ensuite augmenter la part des cotisations sociales, notamment créer une cotisation pour la formation, vu qu'on veut créer un droit à la formation. Mais ça, nous, on en discute avec les travailleurs, etc. On leur dit, voilà. L'idée, c'est que chaque mois, sur ta fiche de paie, tu as 5, 6 euros qui soit destiné à la sécurité sociale que tu ne toucheras pas. Après, d'un autre côté, on est pour la revalorisation des salaires. Mais d'un autre côté, quand tes enfants seront en âge d'étudier, tu n'auras pas le moindre euro à débourser pour les aider à étudier. Eh bien, la plupart sont prêts à faire ça. Enfin, moi, j'en ai vu aucun d'ailleurs qui m'a dit qu'il n'était pas d'accord avec l'idée de pouvoir faire ça. Donc ça, c'est une chose. L'autre aspect, c'est que nous, on veut éradiquer le chômage, notamment en réindustrialisant le pays, en créant des postes de fonctionnaires. Je viendrai après sur comment on crée des postes de fonctionnaires, revaloriser les fonctionnaires, etc. Mais ça, ça me permettra derrière de remplir de façon considérable les caisses de la sécurité sociale. Parce que c'est des gens qui, du coup, produiront des richesses. Et parmi ces richesses qui seront produites, une partie iront dans les caisses de la sécurité sociale. Et dernier levier pour la sécurité sociale, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. L'égalité salariale. Parce que de fait, si les femmes sont mieux payées au même niveau que les hommes, ça veut dire qu'il y a une plus grande partie derrière qui vont dans les caisses de la sécurité sociale. Et je pense que c'est des leviers immenses derrière ça et qui nous permettront non seulement de créer une nouvelle branche formation dans la sécurité sociale, mais qui nous permettront également de partir à la retraite à 60 ans et qui nous permettront également, une troisième couche, d'avoir des pensions plus élevées, revaloriser les pensions de retraite. Parce qu'actuellement, il y a un certain nombre qui ne permettent pas en fait, de vivre au dignement. Donc ça, c'est l'aspect sur la sécurité sociale. Deuxièmement, sur la question des créations de postes de fonctionnaires, de revalorisation des services publics, etc., qui représente un truc de dingue, hein, ce qu'on propose. Si Macron devrait le qualifier, il dirait que c'est un pognon de dingue. La réalité, c'est que moi, je pense... Aujourd'hui, on nous fait peur avec la dette. On nous fait énormément peur avec la dette. La réalité, c'est que ce qui coûte cher aujourd'hui à la France, ce n'est pas la dette. C'est le remboursement du taux d'intérêt de la dette. Et ce remboursement du taux d'intérêt de la dette, il vient directement engraisser en réalité des actionnaires qui ont des actifs, justement, sur la dette, sur les dettes des États, et notamment sur les dettes de la France. Nous, ce qu'on pense, c'est que la France doit emprunter à taux zéro, pouvoir emprunter à taux zéro pour s'endetter à taux zéro, et que un endettement qui permette de financer l'hôpital public pour éviter d'avoir une population qui est en mauvaise santé, de permettre d'investir dans des services publics d'éducation qui nous permettent d'avoir la jeunesse la mieux formée, et donc demain des travailleurs qui permettront de produire encore plus de richesses, d'avoir des services publics qui permettent de développer le fret ferroviaire et le fret maritime. Et le fret fluvial, excusez-moi. Et donc, qui permettent non seulement de lutter contre le réchauffement climatique, mais de développer aussi les échanges et toutes les productions que nous allons faire, etc. Eh bien, en réalité, c'est des endettements qui, en fait, sont avant tout un investissement sur le long terme, qui permettent à la société tout entière de progresser et, en réalité, de s'enrichir. Très concrètement, je parle de s'enrichir, bien évidemment, intellectuellement, socialement, etc., mais aussi très concrètement, avec plus de richesses qui seraient produites. Les libéraux, c'est les libéraux qui nous font peur sur l'endettement. À titre d'exemple, lorsqu'on a construit le métro parisien, la ville de Paris s'est endettée sur plus d'un siècle. Pour une ligne de métro, plus d'un siècle. Aujourd'hui, les libéraux nous contraignent à ce que les collectivités territoriales, notamment les mairies, mais c'est pareil avec l'État, parce qu'ils nous font peur avec les dettes, on ne puisse pas s'endetter sur 10, 15, 20 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus investir, on ne peut plus s'endetter. Eh bien, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut reprendre les mains sur les productions monétaires et notamment sur la banque, aujourd'hui la Banque Centrale Européenne, et sur ce qui produit aujourd'hui l'argent en France, et que les États puissent emprunter à taux zéro et qu'on ne rembourse plus les taux d'intérêt. Et en fait, ce n'est pas un problème pour un État d'être endetté. Le problème pour un État avec la dette, c'est de payer des taux d'intérêt. Et ça, c'est scandaleux. Parce que payer des taux d'intérêt, c'est-à-dire que sur nos impôts, on ne fait que ça aujourd'hui. Sur nos impôts, ça veut dire qu'on va donner de l'argent à des actionnaires qui s'engraissent sur des actifs qu'ils ont pris sur l'endettement des États, et notamment de la France.
Et sur le stock de dette qui aujourd'hui existant, quelle est la position du Parti communiste? Est-ce qu'il y a un projet d'effacer la dette? Un projet de renégociation au sein de l'Union européenne avec évidemment un changement de politique de la Banque Centrale Européenne, de rachat de ces titres de dette pour arriver à un taux d'endettement, enfin un niveau de dette à zéro pour l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Quel est le projet, quelle est l'ambition du Parti communiste?
L'ambition, c'est qu'on arrête de payer les taux d'intérêt. Moi, je ne dis pas que la dette est une mauvaise chose, et y compris aujourd'hui, la France est certes endettée, d'ailleurs pas à des niveaux non plus colossaux, hein, contrairement à ce qu'on entend partout, et que pour moi c'est pas un problème économiquement, ce n'est pas un problème d'avoir un État qui est endetté. Donc, ça ne sert à rien de dire on se met à tous à zéro. Parce que nous, on va se réendetter derrière. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun souci là-dessus. On va se réendetter plus que ce qu'on est actuellement. Mais l'enjeu, c'est qu'on arrête de payer les taux d'intérêt. Et moi, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, ces taux d'intérêt, ils disparaissent. Et pour ça, il faut reprendre la main sur les productions de richesses, et notamment les richesses qui sont prêtées aux États. Et en l'occurrence, pour la France, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne. Et il faut reprendre la main sur la Banque Centrale Européenne et leur dire, c'est fini. On ne paiera plus les taux d'intérêt. C'est fini. Et le reste, on s'endette et on rembourse la dette d'un autre côté, mais on s'endette sur plusieurs années pour investir dans le service public, pour lancer le service public, etc. Et ça, c'est un bon endettement, si vous voulez, parce que c'est un investissement. Et ça, c'est un raisonnement très économique. C'est un investissement et c'est un truc qui nous permettra, derrière, de nous enrichir. Et c'est ça qu'il faut faire. Par contre, c'est hors de question qu'on paye des taux d'intérêt, encore une fois.
Un point que je trouve intéressant à réaliser ces entretiens, c'est la confrontation des opinions qu'on peut avoir et surtout l'importance des thématiques qui sont portées. Au début de l'entretien, je vous ai demandé de me citer trois axes qui portent et qui sont représentatifs des projets du Parti communiste français. Un sujet qui est porté, et notamment depuis le réveil ou la sortie d'on ne sait d'où d'Éric Zemmour, c'est évidemment, vous me voyez venir, c'est le sujet de l'immigration. Un lien qui est fait d'ailleurs par Zemmour, c'est le lien immigration-sécurité. Quelque part, au début de notre entretien, vous avez dit le sujet de l'insécurité est un sujet qui, par la gauche, est de plus en plus délaissé. L'immigration, un petit peu aussi. Quelle est du coup l'idée du Parti communiste français, son point de vue sur l'immigration ?
Il y a deux éléments sur la question de l'immigration. Il y a, regardez pourquoi des populations émigrent, partent de leur pays. Ça, je pense que c'est déjà un des premiers enjeux. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, on y est pour quelque chose. Et notamment, il y en a qui fuient des guerres où, des fois, c'est des bombes qui ont été produites en France, ou par des entreprises françaises, qu'on a vendues, des rafales qu'on a vendues, qui participent à ces guerres. Donc déjà, il faut regarder... ce côté-là, sur les gars. Il y en a qui fuient la misère. Des fois, misère parce que, on a des entreprises françaises qui pillent littéralement certains territoires, quitte à les appauvrir. Donc déjà, il faut lutter contre ce qui oblige certaines populations, certaines personnes à fuir leur pays au danger de leur vie. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas de tout repos d'émigrer. Enfin, les chiffres sont affolants et affligeants là-dessus. Et encore, je pense qu'ils sont minimisés. Donc ça, c'est une première chose. Après, il faut se dire aussi que dans les années à venir, il va y avoir plus d'émigrations. Malgré tout, même si on lutte contre ça, il va y avoir plus de migrations, notamment liées à l'impact du réchauffement climatique. Parce qu'on voit des catastrophes se multiplier dans certaines terres. Il y a des terres qui vont devenir de plus en plus invivables, des territoires qui vont devenir de plus en plus invivables parce que ouragans sont ouragans, inondations sont inondations, etc. Et donc, il va y avoir des migrations. La question, c'est comment on gère maintenant cette immigration, cette fois-ci, ceux qui, du coup, viennent trouver refuge, on va dire, en France. Et pour ça, on a en France le droit d'asile. Nous, on est pour avoir une vision plus extensive du droit d'asile. Mais maintenant, c'est que l'ensemble de ceux qui viennent sur le territoire français, je pense qu'il faut arrêter de se dire qu'on ferme les yeux sur ce qui se passe et qu'il faut les accueillir dignement. On a littéralement des bidonvilles qui se sont installés, notamment à Paris, mais dans plusieurs endroits en France, notamment parc de la Villette, où on a toute une économie informelle qui s'est lancée, du trafic de drogue qui s'est lancé, et ce qui crée certes là de l'insécurité. Mais la réalité, c'est que c'est des gens qui se sont retrouvés dans une misère noire et qui sont tombés, comme beaucoup, du coup, mais pas tout le monde, hein, mais dans la drogue, dans l'alcool, etc. Et qui se retrouvent aujourd'hui livrés à eux-mêmes. Et c'est pas ce à quoi ils aspiraient, c'est pas ce à quoi nous, on devrait aspirer. Et donc moi, je pense qu'une des priorités devrait être de leur permettre d'être accueillis dignement, c'est-à-dire, premièrement, d'avoir un logement, deuxièmement, de leur donner des cours, une formation, certains des cours de français, parce que certains ne parlent pas français, et ensuite leur proposer des emplois. Et moi, je pense qu'on ne manque pas d'emplois aujourd'hui en France. Le seul truc qu'on manque, c'est d'ambition politique. Moi, je ne me retrouve pas dans le slogan qui avait pu être lancé, 1 million d'immigrés, 1 million de chômeurs en trop. La réalité, c'est que Ce qui manque, c'est de l'ambition politique. On a besoin d'emplois dans le service public, dans notre industrie pour réindustrialiser le pays, etc. Certains sont diplômés, certains ont vocation à devenir une population, des travailleurs diplômés. Mais pour ça, il faut leur en donner les moyens. Et donc, moi, je pense qu'il faut, premièrement, leur donner des logements. Deuxièmement, leur permettre d'accéder à une formation ou à un emploi, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Et troisièmement, parce que la grande majorité, en réalité, ce n'est pas des gens qui zonent ou je ne sais pas quoi. La grande majorité, ils travaillent, mais c'est leur reconnaître les mêmes droits que les travailleurs français. Moi, j'étais il y a quelques semaines sur un piquet de grève de Monoprix de Belleville de livreurs à vélo. Ils m'ont raconté qu'ils étaient en grève parce qu'ils s'étaient fait renverser par une voiture. Enfin, un de leurs collègues s'était fait renverser par une voiture. Et le vélo a été détruit. Et lui, il était en arrêt pendant un mois. Non seulement il n'a pas eu d'activité de rémunération pendant un mois, mais en plus, il a dû payer les dégâts faits au vélo qui étaient prêtés par l'entreprise. Et donc, ils ont pété un gars parce que bon, littéralement, ils ne pouvaient pas survivre. Et quand ils se sont plaints à l'entreprise, l'entreprise, il a dit « Mais de toute façon, tu peux pas m'attaquer au prud'homme. De toute façon, vu que tu n'es pas français, tu ne pourras pas y aller. » Et eux, ils en avaient ras-le-bol de ça. Et ils en avaient encore plus ras-le-bol aussi d'être sous-rémunérés. Et que quand ils se plaignaient au patron d'avoir une rémunération inférieure à celle du SMIC horaire, le patron leur disait « Mais vous êtes immigré. Vous n'avez pas de papier. Vous n'êtes pas en règle aujourd'hui sur le territoire français. » Mais c'est un scandale. C'est des gens qui livraient les courses. Il y a des gens qui travaillent et c'est une forme quasiment d'esclavagisme moderne. Il faut mettre fin à ça. Il faut reconnaître que ceux qui travaillent en France doivent être au même droit, avoir les mêmes droits que n'importe quel travailleur français. Je pense. Moi, j'en suis persuadé. Et la réalité, c'est que l'extrême droite nous dit « Mais oui, mais il y a un problème d'intégration, je ne sais pas où, de voilà. » Mais la réalité, c'est qu'eux, ils ne proposent rien là-dessus. Ben, ils ne proposent pas de leur offrir des formations, leur offrir des emplois. C'est ça, l'intégration. Ben, nous, on propose que si. Donc, deux leviers permettent de lutter, d'éviter que des populations entières soient obligées de partir de leur pays, d'émigrer. Ça, c'est une chose. Et ça vient aussi avec l'enjeu de coopération entre les peuples que je prenais tout à l'heure, en disant aussi voir comment on peut potentiellement aussi aider, accompagner certains pays à se développer, notamment à développer des productions énergétiques qui leur permettent justement de créer des industries locales, etc., qui permettent de lutter contre la précarité, etc. Donc ça, c'est un enjeu, de voir pourquoi ils émigrent et de voir comment nous, on peut aussi aider pour pas qu'ils soient obligés, contraints de partir. Et maintenant, pour ceux qui, de toute façon, n'auront pas le choix ou qui veulent aussi, hein, il y en a qui veulent, et moi, je ne suis pas fermé à cette idée-là, qui veulent immigrer en France notamment, eh bien, il faut les intégrer pleinement dans la société française, par l'emploi et la formation notamment.
Vous proposez de modifier les tranches et d'en mettre 15. La question est simple, c'est à partir de quel niveau de revenu une personne bénéficiera, aura un gain économique de cette nouvelle disposition, de ces nouvelles tranches.
Le souci, c'est que... Ça va de pair avec la revalorisation de l'ensemble des salaires, et notamment l'augmentation du SMIC à 1900 brut, 1500 net. Et donc, mécaniquement, il faut avoir en tête que chacun des travailleurs va avoir un pouvoir d'achat qui est différent, il va payer des impôts mécaniquement différents, et donc on peut pas dire que aujourd'hui les SMICards vont payer moins d'impôts. La réalité, c'est qu'ils vont en payer un peu plus parce qu'ils ont plus de salaire, mais ils auront quand même une augmentation de leur pouvoir d'achat. Donc c'est compliqué d'évaluer comme ça, étant donné qu'on est pour la revalorisation des salaires, considérablement. Donc à l'heure actuelle, je ne peux pas dire voilà, un ouvrier va payer moins d'impôts qu'à l'heure actuelle, parce qu'en fait, il aura une augmentation de son salaire, et après, il répondra dans ces tranches-là. Ce qui est sûr, c'est que l'augmentation du nombre de tranches permettra d'être en adéquation avec la réalité. Deuxièmement, il y a l'impôt sur le revenu, mais il y a aussi l'impôt sur la fortune, où là nous on est pour rétablissement de l'impôt sur la fortune tel qu'il était constitué avant, au même niveau. Par contre, on veut le tripler.
Conclusion et projection sur l'avenir à court terme, comment vous voyez là à l'heure actuelle auquel on se part, donc fin février, la campagne présidentielle à venir pour vous, pour votre parti et pour par rapport aux autres candidats?
Eh bien, moi, j'ai plutôt espoir. Je suis même assez enthousiaste, même très enthousiaste par rapport à la campagne. parce qu'on voit que Fabien Roussel, depuis que Fabien Roussel est connu, on parle des sujets qui intéressent les Français. On parle de pouvoir d'achat notamment. On parle aussi liberté d'expression, laïcité, des sujets qui jusqu'alors étaient complètement absents du débat public. Et donc je suis très content qu'enfin on parle des vrais sujets. Et je suis encore plus content que ça vient de notre candidat. Et je suis ensuite persuadé que Fabien gagne à être connu, Fabien Roussel gagne à être connu, et que on a encore beaucoup de marge là-dessus. Alors il reste quelques semaines, mais ces semaines seront justement un moment charnière pour faire connaître ce candidat et faire connaître nos propositions et montrer aux Françaises et aux Français, et notamment à ceux des classes populaires, qu'il y a enfin un candidat à gauche, honnête, sincère, populaire, qui n'a aucun sujet tabou, qui parle de nous, de notre quotidien et des manières de changer, de le changer, ce quotidien. Et moi, je suis plutôt enthousiaste là-dessus et je vous avoue que je m'investis énormément voilà, j'ai beaucoup de cernes d'ailleurs, mais je m'investis énormément là-dedans parce que je suis persuadé qu'on est capable de faire la différence sur ce sujet. On est capable surtout à montrer à la France entière et à l'électorat de gauche, mais surtout à l'ensemble des classes populaires, qu'aujourd'hui, la politique peut parler de nous et qu'on peut enfin relever la tête et qu'on a un candidat qui nous représente. Et moi, je suis plutôt très enthousiaste là-dessus. Et enfin, parler du droit au bonheur, du défi des jours heureux dans un contexte politique, dans un climat politique nauséabond où il y en a qui jouent justement sur la peur des gens, je pense que ça permet aussi et surtout de réinsuffler, de redonner espoir aujourd'hui au peuple de France en disant non, les belles années ne sont pas derrière nous, elles sont devant nous, elles sont à portée de main, à condition bien évidemment de voter, de faire voter pour Fabien Roussel, et j'irais même plus largement de s'engager pleinement et d'adhérer, de rejoindre la politique et pas juste d'être spectateur, parce qu'il ne suffira pas de mettre un bulletin Fabien Roussel, il s'agit aussi de s'engager politiquement, et je pense que Fabien Roussel le permet.
Très bien. Bah, merci Léon de Fontaine pour ce riche entretien. Vous souhaite bon courage pour la suite.